I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Dans 3-4, c'est parti. Attention. Un jour, Kiki la cocotte demande à Coco le concasseur de cacao de lui offrir un caraco kaki avec un col de caracule. Coco, le concasseur de cacao, voulut mieux offrir à Kiki la cocotte le caraco kaki mais sans le col de caracule. Or, va ta coquin qui conquit le cœur de Kiki la cocotte et lui offrit le caraco kaki avec le col de caracule. Conclusion, Coco le concasseur de cacao en conclut qu'il était cocu. C'est bon, on peut y aller.
1-2, Sunshake, Sunshake.
Sunshake.
Méthode paranoïa cryptique, 2 points.
Paranoïa, c'est le maximum du délire, et cryptique, qui veut dire le maximum de raisonnement.
Vincent Malone.
Pierre-Étienne Michelin.
Le bonhomme Michelin.
Pierre-Étienne Michelin, bonjour.
Bonjour Vincent.
Nous allons parler de quoi aujourd'hui ?
Du nanotiming. C'est la décomposition de chaque seconde.
Et à quoi ça sert de parler de nanotiming ?
Alors, le temps est inintéressant. Le vieillissement, c'est comme... voilà. Par exemple, il y a des gens qui sont spermophages. Tu sais pourquoi ?
Parce qu'ils mangent du sperme.
Oui, parce qu'ils avalent leur sperme. Leur propre sperme. Attention, toutes les conneries que tu lis sur Facebook pour que les femmes avalent du sperme, c'est des conneries. Par contre, effectivement, il y a des études américaines hyper prouvées, hyper scientifiques, attention, que quand tu manges effectivement du sperme, le sperme a des facultés qui ralentissent le vieillissement des cellules. On est en plein cœur de la paranoïa du temps. Alors, en fait, quand t'es artiste, tu rencontres toujours des gens dans un certain contexte, qui sont assez, un peu festifs, un peu imbibés d'alcool. Ta vie est jonchée de rencontres. Et du coup, en fait, les gens, en fait, quand tu les rencontres et dans un certain contexte, ils se livrent, ils se mettent un peu à poil, ils se livrent, ils sont... Forcément, ça peut te rendre parano. Par exemple, je te raconte une histoire. Tiens, en 1993, je rencontre, après un concert, un CRS. Qui me raconte qu'en fait, dans toutes les manifestations, dans toutes les contestations du peuple, c'est des policiers qui déclenchent des échauffourées pour casser le contexte, pour casser en fait, parce qu'à chaque fois que donc les médias ne parlent que des violences et tout ça, bon, du coup, on ne s'intéresse pas du tout
au contexte,
aux revendications syndicales et tout ça. Donc tout est défoncé par, en fait, il y a des violences. Donc du coup, on parle que de ça. Et comme les commandants CRS sont au courant de là où ça va péter, à quel moment et avec qui, alors ils ont juste un petit signe pour se connaître entre eux. Et en fait, ils me racontent tout ça. Et je dis, waouh, c'est génial. Depuis mai 1968, ça existe. Et encore, aujourd'hui, on applique cette espèce de...
Alors, comment on en est arrivé au CRS qui ont des signes de reconnaissance, qui ont des bastons
lien. Mais quand tu t'intéresses...
On parlait de quoi ? Je m'en souviens même plus tellement tu m'emmènes...
On parlait du temps...
Je ne vois vraiment pas le rapport, là.
Mais
là,
si, mais parce que je ressens le débat sur la paranoïa.
Ah, tu ressens le... Il y avait un débat.
Rien n'est pertinent, sauf la pertinence. La neuropsychiatrie, c'est vachement intéressant, parce que tu te rends compte que les mecs, ils rigolent pas, quoi. Ils rigolent pas. Les neuropsychiatres, c'est vraiment l'alliance de la psychiatrie et la neurologie. Par exemple, j'ai été un cobaye c'était en 2007-2008, au CHU de La Tronche.
Ah, ça ne s'invente pas, hein, ça s'appelle La Tronche.
À côté de Grenoble. Et j'étais un cobaye avec mon père, comme on est PMD tous les deux, on est plein de pathologies psychiatriques. On nous a fait des IRM de nos cerveaux, en écoutant deux chansons. On nous a mis deux chansons dans nos oreilles pendant un IRM pour faire de l'imagerie cérébrale. Et alors, c'était vachement intéressant parce qu'on a déjà mis deux chansons. Une chanson que j'adore et une chanson que j'ai enregistrée en tant que batteur. Et du coup, en fait, on s'est rendu compte que quand j'écoutais, mon père ne savait pas, lui, dans son IRM, sur quel morceau j'avais joué et quel morceau j'aimais, sur deux chansons. Et du coup, on s'est rendu compte que, forcément, moi, j'écoute la première chanson et j'ai des souvenirs des personnes avec qui j'ai joué, avec qui j'ai travaillé, dans quel studio. Donc, il y a des zones...
Mais on parle de la chanson où tu jouais.
Oui. Donc, il y a des zones neuronales qui s'activent, il y a des connexions qui se font avec la mémoire et tout ça. Mon père, lui, ne sait pas. Dans le même IRM, avec les mêmes images. Mais pourtant, il a les mêmes... Il y a les mêmes zones qui s'activent en même temps parce que il sait juste que c'est deux chansons que j'ai choisies. Mais il sait pas que j'ai joué sur l'une et que l'autre est une chanson que j'adore. Et du coup, c'est extraordinaire, en fait.
Je n'ai rien compris, là. On est d'accord sur le fait qu'on
peut pas compris.
On peut pas comprendre ce que tu viens de raconter.
Alors, si. Alors, je reprends. En fait, on a été des cobayes avec mon père.
Non, mais ça, j'ai compris cette partie-là. Ouais. Mais il a les mêmes réactions que toi, neuronales, alors qu'il ne sait pas.
Oui, parce que dès que tu touches à la sensibilité, à la musique, la peinture, tu es assujetti au goût. Tout le monde est assujetti au goût. L'art, en général, est assujetti au goût. Et à partir du moment où, en fait, soit tu as participé à un acte créatif, quel qu'il soit, et du coup, tes zones, les zones neuronales sont activées par des mécanismes neurotransmettifs, ou soit tu n'y as pas participé, et du coup, tu reçois ça comme une découverte. Une découverte, et du coup, d'autres zones neuronales sont activées.
Et
ça, c'est intéressant.
Je n'arrive absolument pas à voir ce qu'il y a d'intéressant là-dedans. Ça servait à quoi, cette étude?
En fait, parce que comme nous, on est dans ma famille, je t'ai raconté l'histoire de la famille Michelin, quoi. Parce que je m'appelle Pierre-Étienne Michelin, je suis né à Clermont-Ferrand, je suis descendant de la famille des pneus. Je suis descendant de Jules Michelin, qui était le père de Étienne et Édouard Michelin, les manufacturiers qui ont repris Dobré, après qui sont devenus les usines de caoutchouc, qui ont inventé la vélocipédie, les pneus dans la vélocipédie en 1870, etc., etc., etc. Et c'est donc une longue génération de gens très créatifs, très inventifs, mais qui sont un petit peu quand même, tu vois, un petit peu dingue, enfin un petit peu hyperactif, un petit peu bipolaire, enfin tout ce qu'on, et ces conneries de termes qu'on utilise actuellement.
C'est quoi les PTM, BBM, je sais pas quoi.
PMD.
Psychose médico-dépressive.
C'était ce qu'on appelait dans les années 90 des gens qui étaient complètement fluctuants au niveau des humeurs, qui étaient hyper créatifs, qui étaient hyperactifs, qui étaient. On a tout mis en fait dans ce terme. Et ensuite, dans les années 90, au moment où tous les thymorégulateurs, le tégretol, le dépakote, le dépamide, sont devenus des brevets obsolètes qu'on a pu copier, tous les laboratoires pharmaceutiques ont financé des recherches à grands coups de millions pour dire...
Non, mais on va pas dire manéco-dépression, on va dire...
Bipolaire. Et du coup, tout le monde est bipolaire. Et du coup, on est passé de 1 million de patients de vrais PMD à 25 millions. C'est génial. Aujourd'hui, tu passes la porte de n'importe quel cabinet de psychiatrie ou c'est un bipolaire. Et alors, c'est faux. C'est faux. Bipolaire, ça n'existe pas. Tout le monde est bipolaire.
PMD, ça veut dire psychose manéco-dépressive.
Mais c'est un terme aujourd'hui qui fait peur. Donc, on n'utilise plus.
Tu me dis que c'est le cerveau normal d'un mec très créatif, c'est ça? Mais pourquoi on le soigne alors?
Parce qu'il y a des phases, maniaques, il y a des phases dépressives qui sont dangereuses, qui peuvent être, voire suicidaires, voire complètement, inadaptées. Inadaptées à la vie. Les vrais PMD sont des gens qui souffrent. Donc c'est des gens qu'il faut soigner, parce qu'à un moment donné, ça peut être dangereux, effectivement. Ça peut susciter des raptus anxieux.
C'est quoi le...
Le raptus anxieux,
oui.
C'est une pulsion anxiogène qui est « il faut mourir immédiatement ». C'est des gens qui se suicident, malheureusement, sur un coup de tête. Dans les 5 minutes, il faut mourir. C'est une crise d'anxiété qui est tellement violente, ça s'appelle un raptus anxieux. Il faut mourir immédiatement. Et en fait, c'est des gens qui se ratent jamais. Hein. C'est des gens qui se pendent, qui arrêtent leur bagnole sur l'autoroute, qui se jettent sous un TGV. Enfin, il y a plein d'exemples comme ça, qui voient une fenêtre, ils sont dans un contexte normal, ils sont pas dépressifs, hein, c'est pas des gens dépressifs, c'est une pulsion, c'est une crise d'anxiété dans laquelle il faut mourir immédiatement. Et généralement, on se rencontre trop tard. Après un raptus anxieux, on se rend compte trop tard que cette personne souffrait d'hyperactivité, de psychose maniaco-dépressive. C'est une crise qu'il faut assouvir immédiatement, dont la seule issue est la mort. Voilà, c'est un raptus anxieux.
Il y a des gens qui sont spermophages. Tu sais pourquoi ? Les violences et tout ça. S'intéresse pas du tout.
Voilà, ça l'art, en général, est assujetti au goût.
Je t'ai raconté l'histoire de la famille Michelin, quoi. Je suis descendant de la famille des pneus.
C'est un raptus anxieux.
Toi, dans ta famille Michelin, quand vous faites pas des pneus, vous faites des raptus anxieux ?
Oui, il y a beaucoup de suicides, effectivement. Il y a beaucoup de raptus. J'ai un grand-oncle, par exemple, en 1918, je crois, qui défilait à Besançon. Le 14 juillet, qui voilà, il défilait. Et d'un seul coup, le mec a 22 ans, il sort des rangs, il court et il se jette dans le dos. C'est voilà, c'est ce genre de truc. Alors ça a fait tout un truc parce que à l'époque, quand t'étais militaire, si tu te suicidais, c'était vraiment un échec. C'était vraiment qu'ils avaient rien vu venir, comme le pilote de la Germanwings là qui s'est suicidé.
Tu crois qu'il a fait un raptus anxieux ?
Ah ben bien sûr.
Puisqu'on parle de parano, c'est le sujet de cette émission.
Bien sûr.
Je te le rappelle.
Oui,
tu parles de tout et de n'importe
quoi.
Mais
parce que je tourne autour.
On peut parler de la peur du fou.
On a toujours caché les fous, on a toujours voulu les enfermer et c'est depuis 40 ans que maintenant, avec la neuropsychiatrie, on s'intéresse un petit peu aux mécanismes des anxiétés, des peurs, des paranoïas.
La paranoïa est une pathologie, hein, d'ailleurs, je te rappelle.
Une pathologie qui peut être extrêmement handicapante et extrêmement qui peut empêcher toute relation sociale, toute vie professionnelle et tout ça.
C'est une vraie pathologie, la paranoïa.
Mais c'est toujours un mécanisme soit lié à l'hyperactivité, soit une schizophrénie mal diagnostiquée, on va dire, et etc.
Quand on est PMD... On est obligé de se soigner, en fait.
Alors, le problème... Justement, c'est que on a foutu sur le marché en fait des anti-épileptiques. La lithiumie, les traitements au lithium. Quand t'es PMD, justement, c'est un thymorégulateur, c'est que tu fais une lithiumie. Le lithium, c'est un oligo-élément, c'est dans ton sang. Normalement, tu devrais avoir, tout le monde a généralement, faut pas dépasser 0,80 grammes par litre de sang.
De lithium.
De lithium. C'est un oligo-élément qui est sécrété par le cerveau. Normalement, c'est ce qui est censé réguler ton humeur. Et il se trouve que effectivement, on a découvert que un manque de lithium, une hypolithiumie, ça veut dire que t'as pas assez de lithium.
J'ai compris.
Il faut prendre des cachetons de lithium et tout ça.
Est-ce qu'une hypopotame, c'est qu'on n'a pas assez de potame?
Peut-être. La folie n'existe pas. Le sexisme n'existe pas. Le racisme n'existe pas.
Ah bon?
Oui, bah non. Ce que je disais dans le premier épisode là sur le cerveau qui est raciste.
Oui.
On utilise le terme raciste à partir du moment où on considère que la race existe. Sauf que on sait que maintenant dans l'humanité, il n'y a pas de race, aucune.
Ah bon?
Oui, bah non. Si on a des couleurs différentes, c'est en fonction des métamorphoses génétiques depuis toujours. Donc la race n'existe pas. Donc si on est raciste, ça n'a pas de fondement. Le sexisme, ça n'a pas de fondement.
Pas d'homme, il n'y a pas de femme, tu veux dire ?
Mais on est absolument égal.
Oui, mais il y a bien des gens qui pensent que les hommes sont supérieurs, que les femmes sont supérieures.
Mais non, ça c'est des conneries qui ont été inventées il y a 5 000, 10 000,
oui, mais c'est ce qu'on appelle
8 000,
le sexisme.
20 000 ans.
C'est ce qu'on appelle le sexisme.
Mais aujourd'hui, on a compris que nous avons tous à apprendre de l'autre et qu'il n'y a aucune différence entre un homme et une femme et il n'y en avoir aucune.
Bah.
À part la vision des choses. Mais ça veut pas dire que... C'est comme les musiciens. Il n'y a pas de bons ou mauvais musiciens. Il n'y a que des musiciens à des stades différents.
Oui.
D'accord.
Il y en a qui sont mauvais, puis il y en a qui sont bons, quoi.
Non, il y a des...
Bah, si.
Non, non. Alors non, je m'offusque contre cette réflexion. Il y a des musiciens à des stades différents.
Le stade mauvais, par exemple.
Avec les femmes, les hommes, avec les races en général, avec toutes ces conneries là, il n'y a pas, ça n'existe pas.
Mais la folie existe puisque t'es PMD.
Non, la folie n'existe pas. C'est pas de la folie, la PMD. On est tous bipolaires, on est tous PMD, on est tous un peu dingues, un peu créatifs, un peu. Regarde, je suis en train de te parler devant un poster de Salvatore Dalí avec la gueule à l'envers. Mais Salvatore Dalí, quand même, c'était un mec. Bon, évidemment qu'il était barré complet, qu'il était absolument génial. C'était un créatif compulsif. On est tous des créatifs compulsifs.
Est-ce qu'il était PMD, le Anthony Perkins, dans la psychose de Hitchcock, là ? Ah non, lui, il avait un syndrome de schizophrénie, c'est clair.
C'est la schizophrénie quand on empaille sa mère ?
Ah oui.
Si on voit quelqu'un qui empaille sa mère, c'est de la schizophrénie.
Dans la psychose de Hitchcock, effectivement, là, on est clairement dans un cas de schizophrénie.
C'est la schizophrénie quand on empaille sa mère.
Ah oui.
C'est la schizophrénie quand on empaille sa mère.
Ah oui.
Dans psychose maniaco-dépressive.
Maniaco, ça fait un peu aussi.
Le maniaque.
Oui, ça fait un peu.
Les phases maniaques. Parce que oui. Tu passes, en fait, de la psychose.
PMD, ça fait
de
la paranoïa.
Parce qu'il y a des dépressions. Tu passes du côté maniaque, où là, t'es hyper précis, tu parles. Waouh, c'est génial, t'es hyper précis, tu fais une cuisine, tu fais. Le maniaque. Dans psychose maniaco-dépressive, il y a dépression. Et là, par contre, alors là, ça fait plus rien à personne.
Non.
Non, ça fait plus rien à personne quand les enfants sont grands.
Ça ne vaut pas la peine.
Ça ne vaut pas la
de
peine.
Quitter ce qu'on aime.
De laisser ce qu'on aime.
Pour aller faire tourner.
Mais c'est à vous, Gadalien.
Mais c'est beau dommage.
Beau dommage.
Ouais, très beau. Très belle chanson parce que c'est exactement ça. Ça parle de ça, en fait.
Ça parle de PMD.
Oui, ça parle clairement de. Ouais, ça parle de.
Ah ouais? Je savais pas.
Voilà, de faire tourner des ballons sur son nez, d'être. Il y a un film extraordinaire avec José Garcia qui.
Un bon film avec José Garcia, faut quand même me dire ce que c'est, oui.
Je respecte ton goût.
Oui.
Mais non, José Garcia est un génie de la comédie française. Pour moi, c'est un acteur extraordinaire et qui parle de sujets effectivement où. Alors lui, c'est une grande PMD. Patrick Devers.
Oui.
Tu te rappelles?
Oui.
Coup de tête, enfin voilà.
C'est le frère de papier.
Bon, voilà. Donc, Raphus Anxieux, il s'est suicidé.
Ça te fait pas rire quand je te dis que c'est le frère de papier, par exemple.
Si, ça me fait rire, mais on en rigolera après. Voilà, il s'est suicidé, mais quel gâchis, quoi. Quel gâchis, parce que c'était un comédien extraordinaire qui avait une vraie empathie. Une vraie empathie pour les gens, pour on a tous le fantasme, quand on est un homme, de comprendre les femmes. Toutes les femmes, on le fantasme de comprendre les hommes. Tu connais ce film, L'homme qui comprenait les femmes?
Non, enfin non.
À un moment donné, c'est.
Mais pourquoi tu me parles de ça là?
Parce que je te dis de connaître les autres. Le problème, c'est qu'à un moment donné, c'est que quand tu t'intéresses trop au cerveau des autres,
oui.
À la pensée des autres, quand t'es trop addict à la rencontre et aux gens, effectivement, parfois tu t'y perds, tu t'y engouffres.
Oui.
Et ça finit peut-être mal dans une dépression. Moi, généralement, quand j'ai une période un petit peu trop volubile, tumultueuse et tonitruante, je m'enferme 3 jours dans ma chambre et je compte les poils de ma brosse à dents. C'est vachement intéressant parce que ça n'est ni drôle, ça n'est ni intéressant, ça n'est ni passionnant, ça n'est ni exaltant. Il n'y a plus d'exaltation, il n'y a rien. Il y a moi et ma brosse à dents et je compte tous les poils. Et ce qui est génial quand tu comptes les poils de ta brosse à dents, c'est que tu trouves jamais le même chiffre, 2 fois de suite.
Mais là, je bouge pas, mais en fait, je suis en train d'appeler les secours. Je suis en train de faire SOS avec mon talon. Hein.
T'as du réseau ou pas? Je te rappelle que quand t'appelles les secours...
Tu arrives à éviter de tomber dans des phases dépressives, c'est ça?
Ça m'est jamais arrivé. D'être vraiment en dépression, non, jamais.
Bah, t'es pas PMD, alors, parce que normalement,
si,
tu devrais être...
Alors, si, non, mais non. Attends. Attends. Je te rappelle que je suis PMD, mais c'est plein de choses, la PMD. C'est, il y a plein de formes de PMD différentes. Mmh. Il y a l'hyperactivité, il y a l'hypersensibilité, il y a l'empathie permanente des autres, il y a la sécuritopathie. Enfin, tout est lié, la paranoïa, la schizophrénie, tout est ensemble.
Tu veux dire que l'enthousiasme, c'est la PMD?
Oui, ça peut. Ça peut, c'est l'exaltation permanente. Tu sais, c'est comme quand t'es dans une voiture, par exemple, les gens qui sont tout le temps euphoriques, un peu, qui sont tout le temps exaltés, très volubiles, qui parlent beaucoup, qui font beaucoup de bruit, c'est comme une voiture qui a un pet de jeu dans la direction. Les roues vont à gauche. C'est-à-dire que t'es sans arrêt dans l'euphorie, et toi, ton réflexe de survie, c'est de braquer tout à droite. À droite. C'est dans l'euphorie pour ne pas connaître ni tristesse ni quoi que ce soit qui pourrait t'offusquer, qui pourrait te mettre un peu down.
Là, je voudrais bien que si quelqu'un a compris ce qui vient d'être dit, il m'écrive. Vincent Malone, le poste général, 1 rue de l'Ancien Canal à Pantin. Merci.
Moi aussi. Mais ça t'est jamais arrivé, par exemple, d'être à la campagne et puis, je sais pas, de t'extasier devant deux mouches qui font l'amour sur la table du jardin?
Non. Là, je vais être honnête, non.
Ok. Bon, raté. Ça t'est jamais...
Non, mais ça m'intéresse que ça te soit arrivé, par contre.
Ouais, ouais. Bah, tu sais, une fois, par exemple, je suis rentré de tournée, c'était tellement... Il s'est passé tellement de trucs, on a rencontré... C'était tellement... Ouais, c'était génial, et tout. Ouais, c'était en fait... J'ai pleuré devant Derek. Ma femme m'a retrouvé sur le canapé, j'ai regardé Derek. Tremble de Derek.
Bah oui, Derek, c'est le flic allemand.
Hein, et j'étais en larmes. J'étais en larmes d'empathie pour. Et ma femme était arrivée dans le salon, elle me dit, tu te rends compte que t'es en train de pleurer devant Derek?
Oui.
Et je lui dis, mais putain, c'est génial, le mec, il a été obligé de la tuer, c'était par amour, tu vois, c'est beau, quoi.
Oui, mais ça m'arrive aussi, ça, voilà, ça arrive.
Eh ben, c'est...
Enfin, pas devant Derek, mais ça
veut pas dire que t'es PMD, ça veut dire que t'as de l'empathie. Les gens qui pleurent pleurent facilement au cinéma, qui pleurent devant Disney, devant un dessin animé, lors d'un accouchement de voilà, c'est de l'empathie, c'est que tu te mets à la place de l'autre, quoi, c'est génial, et tu vis les choses intensément.
Donc le PMD est forcément plus empathique, en fait.
Je pense, oui, ouais. Beaucoup d'artistes tombent dans les pièges de la PMD, l'alcool, tout ce qui est psychotrope, ça aide à calmer, ça aide à créer, ça aide à désinhiber, ça aide à affronter ses peurs, ça aide à résoudre plein de trucs. Et finalement, en fait, c'est un pot catalytique. J'ai envie de citer Salvador Dali, qui était accro à l'absinthe, enfin, il y a un milliard d'artistes qui, justement, par exemple, parlons de la cocaïne. La cocaïne calme les hyperactifs. On commence à soigner un cocaïnomane en soignant son hyperactivité. Parce que justement, la cocaïne, parce que j'ai beaucoup étudié justement les drogues des cerveaux, les effets de la drogue, de tout type de drogue sur les cerveaux hyperactifs, bipolaires, schizophrènes, etc., etc. Donc par exemple, on sait que le THC propulse le cannabis, les pets, tout ça.
D'accord.
Propulse tous les mécanismes schizophrènes.
Ça veut dire que
ça les décuple.
Ça décuple.
Décuple.
Oui, okay.
Ça peut déclencher, mais surtout ça décuple. La cocaïne, justement, par exemple, calme les hyperactifs parce que avec la cocaïne, tu peux avoir une discussion pendant plus de 4 secondes sur un truc précis. Par exemple. Tu vois. C'est pour ça que il faut jamais qu'un hyperactif prenne de la cocaïne parce que justement ça le calme, c'est trop bon, et c'est comme ça qu'on devient addict.
Attends, je comprends pas, c'est la relation cocaïne hyperactif, je comprends pas. T'es hyperactif, t'es déjà sous coke et tu prends de la coke en plus?
Non, justement la cocaïne, en fait le problème de la cocaïne, c'est que justement ça calme les hyperactifs, ça les calme, ça leur permet de recentrer en fait leur attention sur quelque chose de précis. Mais du coup, tu tombes dans les addictions. Tu es forcément accro. Tout psychotrope, en fait, crée exactement l'inverse de ce qu'il faudrait dans ton cerveau. C'est pour ça que c'est une aberration quand qu'on file à des PMD, des bipolaires, des thymorégulateurs qui sont en fait des anti-épileptiques.
Oui.
D'accord. Parce que souvent, les hyperactifs, c'est une forme d'épilepsie aussi. C'est-à-dire que tu roules sur une route où t'as des platanes qui défilent, ou tu vas en boîte et puis tu fais des crises d'épilepsie. Tout ça, on file des le tégrétol, le dépakote, le dépamine, c'est des thymorégulateurs, soi-disant dans la catégorie des thymorégulateurs. Thymo, donc... la régulation des humeurs. Alors que finalement, c'est des anti-épileptiques.
Depuis 1994, on ne sait pas encore ce que font ces molécules sur le corps, les effets néfastes, sur une prise de... sur un traitement de 20 ans, 30 ans.
Et toi, tu prends des médocs ?
Non, rien.
Que dalle ?
Non, j'ai pris tous les médocs. J'ai pris tous les traitements possibles et imaginables. Et en fait, les plus grosses crises que j'ai fait, justement, c'était sous médoc. C'était sous traitement. C'est justement parce que... Mais attention, tout ça est trusté par une espèce de... Alors là attention, je fais pas mon plisman, hein, mais tout ça est trusté par une espèce d'énorme mafia de gens qui sont allés voler des molécules dans les forêts amazoniennes, qui sont allés voir des chefs, qui ont fait une espèce de tambouille, une espèce de recette comme ça, et puis on balance ça à tire l'argot. Les psychiatres et tout ça, on balance ça à tire l'argot. Moi je dis non. Stop à toutes ces conneries. À un moment donné, il faut connaître la neuropsychiatrie, la neurologie, avant de parler de pathologies comme ça, sorties des écoles, d'où ne sais où, pour créer des nouvelles molécules pour faire consommer du médoc. Attends, je me calme là parce que je suis énervé là.
Ouais, je vois que t'es énervé.
Ouais, ça m'énerve parce que c'est un sujet qui m'énerve, c'est parce que c'est une telle fumisterie. Je trouve qu'on vivrait tellement mieux sans. Pour moi, chaque suicide pourrait être évité. Tout suicide peut être évité, tout raptus anxieux peut être évité, si la personne en question s'est un petit peu intéressée à elle et son fonctionnement, mais de part aussi son histoire, de l'histoire de ses parents, de sa maman, de son papa, de son grand-père, dans la famille. S'il y a des antécédents de raptus anxieux depuis des générations et des générations, ou des artistes un peu créatifs, un peu fous et tout ça, et il faut s'y intéresser parce que justement ça explique ça. Il y a une part de génétique qui est inhérente au problème. Quand t'as des parents suicidaires, alcooliques, tout ça, on peut très bien s'en sortir. Hein. Un enfant se construit toujours avec beaucoup d'amour, même dans n'importe quel contexte. Mais par contre, c'est important de s'y intéresser quand même.
En fait, il faut faire avec soi-même comme avec les avions, quoi. Il faut apprendre à connaître tout le système, quoi.
Exactement. La paranoïa, c'est clairement un manque de connaissance. C'est toujours de l'ignorance, y compris de soi-même.
C'est que quand tu meurs noyé, c'est une des plus belles morts en fait. Parce qu'au moment où tu acceptes que tu vas mourir, et dès que l'eau pénètre tes poumons, tu as le lâcher prise. Il y a un lâcher prise qui se crée et tu perds connaissance immédiatement comme une anesthésie. C'est une sensation très agréable en fait.
Merci Pierre-Étienne.
Merci Vincent.
Merci.
La cocotte. Donc, demande à Coco le concasseur de cacao.
L'extase réside dans chacune des secondes.
C'était une émission du Poste Général.
Bon, c'est bouclé.
Ouais. C'est bon.
Ouais, bon, alors là, il y a du tri à faire. Hein, parce que...
Hey marketers, advertisers, and business owners. Find yourself chatting up the same audience in the same places, using the same old lines? Maybe it's time to podcast the net further to catch your next customer. With Acast, there's plenty of fish in the sea with more than 100,000 podcasts and millions of listeners, so there's a perfect match for every business. Use our ad platform to cast your net, then narrow down using targeting such as demographic, show categories, audience segments, and more. Find your match, then reel them in. Advertise on more than 100,000 podcasts with Acast. Head to go.acast.com/closer to get started.